Cette semaine, notre entretien avec un évêque, eh bien nous le passons en compagnie de Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté encore une fois de venir dans nos studios pour discuter ensemble de l'actualité de l'Église ou alors de l'actualité nationale de notre pays pendant un petit quart d'heure. Alors, la grosse actualité dans l'Église, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est le synode sur l'Amazonie. Qui vient de se clôturer le 28 octobre dernier, après 3 semaines de travaux. Le pape François dit de ce synode qu'il va permettre à l'Église de laisser les rivages confortables des ports sûrs pour entrer dans les eaux profondes. Alors, on a beaucoup parlé dans les médias de beaucoup de choses, et surtout du fameux viri probati, donc qui est le fait qu'on ordonne des hommes aux vertus éprouvées, si j'ai bien fait mon travail, c'est-à-dire des hommes qui sont capables, même s'ils sont mariés, même s'ils sont diacres, capables d'être ordonnés prêtres pour justement servir la mission de l'Église. Mais ce n'est pas le tout de ce synode. Près de 120 propositions ont été déposées afin que l'Évangile soit annoncé en tout lieu, parce que c'était l'objet de ce synode. Alors, même si vous n'y avez pas participé, même si vous n'avez pas été dans les petits papiers de ce synode, j'aimerais juste qu'on entende un peu ce que vous retenez, vous, de ce qui en est sorti.
Mais ce que j'en retiens, c'est que la catholicité, c'est aussi une variété, une variété de situations. L'Église catholique, ça veut dire que elle rassemble des situations diverses et elle est, à l'invitation du Christ lui-même, répandue sur tout l'univers. Et tout l'univers n'est pas, comment dire,
uniforme.
Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le défi permanent de l'Église catholique d'être à la fois une unité et en même temps une diversité de situations et de cultures auxquelles l'Évangile s'adresse. Et respecter la variété et la diversité de ces cultures, c'est une exigence de plus en plus contemporaine, ou plus exactement, une exigence perçue dans le contemporain comme beaucoup plus forte que par le passé. L'unité paraissait, nécessairement monolithique, et il fallait que l'autorité unique de l'Église puisse se réaliser à travers des conceptions, uniques sur tout le territoire que recouvre l'Église catholique. Okay. C'est pas tout à fait vrai, ça n'a jamais tout à fait été comme ça. D'abord parce que
il y a toujours eu un esprit d'inculturation.
Ben bien sûr, bien sûr. On s'est pas rendu compte de cela dans les siècles anciens parce qu'il n'y avait pas la communication qui existe aujourd'hui avec autant de vivacité et d'instantanéité. Donc on voit la diversité forte. Et on cherche l'unité. Alors donc, l'Église est catholique, elle est unie dans le collège des symboliquement dans le collège des évêques réunis autour du pape, mais elle est unie dans son fondateur et sauveur, le Christ Jésus. Hein, voilà. Mais elle s'adresse à des cultures diverses et variées. Dans les temps anciens, ces cultures diverses et variées s'exprimaient par exemple dans la diversité des rites. Il y avait des rites adaptés à chaque région.
Aux en fonction des régions. Il en reste d'ailleurs aujourd'hui.
Il en reste. Alors, le Concile Vatican II, la réforme liturgique, peut-être on peut un peu le regretter, a unifié toute la liturgie catholique sur une espèce de modèle unique, alors que existait, on avait par exemple à Lyon, il y avait un rite particulier qui était vraiment l'Eucharistie, c'était la messe de tout le monde, c'était les sacrements qu'on avait un peu partout, mais il y avait une ritualité un peu différente dans l'église de Lyon.
Liée au territoire.
Liée à l'histoire. Jusque au Concile de Vatican II. Il y avait à Milan un rite qu'on appelait le rite ambrosien, qui était un rite lié à Saint Ambroise de Milan, et il y avait chez les dominicains une façon de célébrer qui n'était pas tout à fait la même que... Voilà. Et donc, ces rites-là existaient. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la diversité a besoin de s'exprimer dans l'Église, aussi bien d'ailleurs que dans les nations, la diversité, la variété des cultures. Et je pense qu'il faut penser le synode sur l'Amazonie dans ce sens, c'est-à-dire les demandes qui ont été faites. Le pape a voulu que les chrétiens d'Amazonie puissent s'exprimer, puissent venir à Rome, à part des délégations, etc., et fassent remonter leurs principaux soucis. Et leur principal souci, c'est que leur territoire amazonien ne soit pas détruit, ne soit pas abîmé, qu'il reste un lieu de vie, et qu'il reste un lieu porteur de vie pour la terre entière, d'ailleurs, parce qu'on sait bien que la forêt amazonienne a de l'importance pour la terre entière. Et donc, ils ont voulu que leur territoire ne soit pas abîmé, ils ont voulu que leur culture, et notamment les cultures indiennes de ce territoire, ne soient pas annulées. Ils ont voulu qu'on les respecte comme peuple, hein, et qu'ils ne soient pas simplement sous une domination impériale quelconque. Et dans l'Église, on peut exprimer cela. Et c'est ça que je retiens en premier, c'est ce synode marque une différence de culture forte à l'intérieur de la vie de l'Église qui s'exprime par des demandes spécifiques qui devront être traitées spécifiquement.
Un synode donc au service de la mission, une réflexion sur comment faire pour que la mission de l'Église se répande dans des territoires qui sont variés, comme vous le soulignez. Vous, Monseigneur, sur le diocèse de Lille, vous prévoyez, vous organisez le 14 novembre prochain un conseil pastoral diocésain, donc toujours dans cette même dynamique, on va dire, hein, pour les auditeurs, c'est vous réunissez une partie des membres de l'Église du diocèse pour travailler. Et ce sera sur le thème de la gouvernance. La gouvernance, un thème qui est ressorti il y a quelques temps avec des histoires de cléricalisme, etc. Donc une réflexion sur comment est-ce que la gouvernance peut être au service de la mission de l'Église. D'abord, en deux mots, est-ce que les catholiques sont au clair aujourd'hui sur la mission de l'Église?
C'est une bonne question qu'on a le droit de se poser, c'est-à-dire est-ce que la mission de l'Église, c'est simplement de faire ce qu'on a toujours fait pour bien rester entre nous? Je ne crois pas. La mission de l'Église, c'est effectivement d'être porteur, pas d'abord du message de Jésus, mais être porteur de Jésus lui-même auprès de ceux que nous rencontrons, auprès de ceux au milieu desquels nous vivons. Voilà. Et donc, être porteur de Jésus. Je pensais à cela en évoquant la figure d'une jeune qui a été béatifiée dans l'Église, une jeune qui est morte il y a 25 ans, par là, en Italie, Chiara Luce Badani, qui est une jeune qui est morte d'un cancer à l'âge de 19 ans. Elle disait, Jésus, je ne parle pas forcément de lui, mais j'essaye de le porter. Voilà. Et donc, ma vie est un signe de lui qui vit en moi. Voilà. Et je pense que ça, c'est important que des chrétiens entendent cela et se disent, ma mission, c'est de porter le Christ, de le rendre visible.
Et alors, pour porter le Christ et le rendre visible, il faut être capable, en tant que baptisé, de faire venir le Christ en nous, pour qu'il vive en nous, pour qu'on puisse le porter aux autres.
Tout à fait.
Pour que ce Christ vive en nous, il faut redécouvrir peut-être la mission des baptisés et peut-être aussi le rôle des paroisses. C'est cela dont vous allez parler au conseil?
Oui, c'est-à-dire, on est toujours, on a fait un synode provincial, par exemple, il y a quelques années.
En 2015.
Un conseil provincial, de 2013-2015. C'était de ça qu'il s'agissait, c'est-à-dire, quelle est notre mission? Voilà. Et comment allons-nous faire? Et c'est pas simplement en attendant, des directives qui viennent du haut. Les directives, elles naissent de la vie chrétienne, elles naissent de l'investissement de chacun dans sa responsabilité chrétienne d'être porteur de Jésus dans le monde d'aujourd'hui et dans les communautés chrétiennes. Alors, nous le sommes tous, c'est-à-dire que l'évêque, les prêtres ne sont pas les détenteurs de tout dans la vie de l'Église. Ils sont serviteurs de la mission de chacun. Moi, je pense que l'évêque, les prêtres, sont faits pour dynamiser la vocation de chaque chrétien. Faire en sorte que chacun se dise comme chrétien, comme baptisé et comme personne moi-même, j'ai une certaine façon de porter le Christ et que je sois sérieux dans la réalisation de cette mission. C'est à ça que nous nous servons et non pas à donner des ordres à tout le monde pour faire ceci et faire cela.
Parmi des idées un peu concrètes sur la réorganisation de nos paroisses et de nos diocèses, certains disent que les prêtres sont un peu trop surchargés par des réunions, par la gestion administrative, et qu'il faudrait peut-être réorganiser pour qu'ils se concentrent sur leur mission principale, annoncer, enseigner, prier, célébrer sacrement. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, c'est-à-dire que je crois qu'ils sont faits pour la rencontre. Hein, je disais, les prêtres sont faits pour servir la mission de chaque chrétien et pour orienter, enfin pour aider à discerner la vocation de chacun. Voilà, que chacun puisse discerner sa propre vocation, c'est la mission, je pense, de l'Église par rapport à chaque chrétien. Et notamment des prêtres pour pousser chacun dans son sur son chemin, voilà. Et donc de fait, alors il s'agit pas de dire que les prêtres n'ont rien à faire en réunion, parce que dans des réunions aussi ils aident les chrétiens à trouver leur propre vocation, mais ils n'ont pas à être des grands organisateurs d'abord, voilà. Je pense ça très profondément. Ils ont à être des pasteurs d'abord, c'est-à-dire des gens soucieux du troupeau, pour que le troupeau du peuple de Dieu grandisse en fidélité au Seigneur.
S'il y avait un axe d'effort prioritaire pour vous dans les paroisses demain, ça serait redécouvrir, remettre au centre la parole de Dieu, redécouvrir, remettre au centre
alors,
la prière.
Cette année, nous sommes dans la deuxième année d'effort en conversion missionnaire, hein, à la suite de la lettre pastorale que j'ai écrite pour la Pentecôte de 2018. Et cette année va nous ouvrir sur discernons l'action de l'Esprit-Saint à l'œuvre dans le monde et dans l'Église. Hein, discernons, c'est-à-dire découvrons que il y a des tas de gens qui font des tas de choses et ils sont portés par l'Esprit de Dieu qui les investit dans leur vie chrétienne, dans leur mission. Et puis même parfois, il y a des gens qui sont investis dans leur vie humaine, qui ne savent pas forcément qu'ils sont porteurs de l'Évangile et de l'Esprit de Dieu, mais ils le sont, voilà. Et nous, notre rôle de chrétien, c'est de discerner cette présence de l'Esprit à l'œuvre dans le monde, qui transforme les relations, qui ouvre les gens les uns aux autres, qui leur permet de se rencontrer, qui les pousse à agir ensemble et à agir pour le bien et pour la justice, en fait, etc. Donc tout cela, nous essayons tout au long de l'année, à travers des petites opérations qu'on va nous proposer, d'aller se rendre visite les uns aux autres, de vivre une vie chrétienne ensemble, d'être capable d'avoir des flashs, d'avoir des coups de cœur sur des choses belles que l'on voit dans la vie, en se disant « mais ça c'est porteur de vie, c'est porteur de bien, c'est porteur de justice, c'est porteur de vérité ». Voilà. Et puis de s'apprendre mutuellement à prier. Voilà, ça c'est les quatre directions, quatre types d'efforts qu'on va nous proposer pour le cours de cette année. C'est ça notre grand désir, c'est de discerner que l'Esprit de Dieu est bien à l'œuvre dans nos propres vies et dans la vie de l'Église et dans la vie du monde.
Un grand merci, Monseigneur Ulrich, d'avoir été notre invité dans l'entretien avec un évêque cette semaine.
Merci, Arnaud.